En 2013, Jean-Michel Dior rencontrait Michel Rocard. Tout de suite, l'identité de la gauche.
Cher Michel Rocard, pour cette dernière partie de l'entretien, on va parler un peu de la gauche. Vous avez, en ce début d'année, avec votre ami Pierre Larouturoux, publié un livre, « La gauche n'a plus le droit à l'erreur ». Et ce constat que vous faites, très alarmiste, montre aussi votre disposition à continuer d'accompagner le mouvement de la gauche, peut-être pour faire en sorte qu'il retrouve non pas une identité, mais un espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la gauche a encore les moyens de faire rêver le peuple qui l'élit? Ou au contraire, est-ce que vous faites partie de ces pessimistes définitifs qui considèrent qu'aujourd'hui, la gauche, c'est fini?
Certainement pas. Certainement pas. Je crois même le contraire. Simplement, il faut se souvenir des définitions initiales. La gauche se définit comme la force qui veut changer, la force du mouvement par rapport aux gens qui préfèrent garder le système comme il est. Et ce qui arrive d'invraisemblable, c'est que nous sommes dans une crise absolument mondiale, dont ce qui se passe en France n'est qu'une petite partie. Comme on la comprend mal et qu'on la connaît mal, cette crise, il n'y a pas de vraie réponse. Personne aujourd'hui n'est en état de faire rêver, puisqu'on ne sait pas encore vraiment comment décrire l'avenir qui se prépare. Des plumes, je pense à Edgar Morin. Des hommes, je pense à Jeremy Rifkin. L'Américain, formidable descripteur d'avenir, décrivent un peu vers quoi il faudrait aller. Dans un cas comme dans l'autre, c'est peu connecté avec le traitement technique du drame contemporain, qui est un immense chômage, combiné avec un désordre financier extrêmement menaçant. Alors là-dedans, on trouve la France cas particulier de l'Europe. L'Europe a donné naissance à une façon d'être de gauche qui porte le nom collectif de social-démocratie. C'est même le nom officiel, d'ailleurs, du regroupement international. C'est la gauche définie d'abord comme une alliance presque structurelle entre son volet politique qui est un parti et son volet syndical, et puis même son volet coopératif et mutualiste, car ça en fait partie.
Et associatif.
Et associatif. Tout ça dans une vision du changement de la société où l'instrument de travail principal, c'est la négociation, c'est le contrat, c'est l'accord collectif, c'est la convention. Tout ça s'appelle la social-démocratie. En France, d'abord, le drame de la Commune a rendu la classe ouvrière muette, sans expression et sans direction pendant 30 ans, les 30 ans décisifs, où justement l'envol du capitalisme, ça se passe à ce moment-là, crée aussi les conditions du dialogue social partout ailleurs. Affaiblissement terrible. Il en sort des syndicats anarchistes, refusant le pouvoir, et purement protestataires, peu aptes à la négociation, que leur faiblesse et leur division leur rend incapables de conduire bien. Ça, c'est particulièrement la France. Par convention chez nous, on appelle la gauche un triplé, qui n'a pas d'analogie, ni en Grande-Bretagne, ni en Allemagne, ni en Autriche, ni en Scandinavie. Le triplé comporte des socialistes, mais en France, ils ont été très très longtemps minoritaires. Les communistes. Et puis les radicaux. Ils entraînent toujours un héritage historique de petite quantité dans notre pays, toujours aujourd'hui. Ils se sont même coupés en deux pour maintenir l'appartenance à gauche. Et dans ces trois gauches, ça n'existe nulle part ailleurs, hein, qu'est-ce qu'il y a de commun? D'abord, une idée de la laïcité transformée en anticléricalisme virulent, un anticatholicisme. Deuxièmement, un centralisme extrême. Tout dépend de l'État. L'État doit tout faire, pas de niveau intermédiaire. Les communes sont faibles, non respectées. Il n'y a surtout pas d'autogestion, d'autonomie, de partenaires intermédiaires. L'écrasement des pouvoirs locaux est déjà un des signes. Et troisième élément commun à toute cette gauche, la croyance que le changement social, le changement de société, c'est la loi qui doit l'apporter. La négligence du dialogue social. Même s'il est difficile pour les raisons précédentes, on aurait pu chercher l'encore. Pas du tout. Oublier, écraser. Tout ça a aggravé la paralysie française, la non-adaptabilité de la France. Et dans cette affaire, depuis longtemps, émerge un ensemble de forces, au fond assez homogènes, mais diverses longtemps, qui n'est pas d'accord. Puis vient la libération, puis vient, etc., la guerre d'Algérie. À l'occasion de la guerre d'Algérie, un changement de république. Une colère générale du milieu populaire de la gauche française contre la guerre d'Algérie, contre le Parti socialiste qui la dirige et la nourrit, contre le Parti communiste qui vote les pouvoirs spéciaux à ce gouvernement. Et le réveil d'une gauche militante se fait en dehors, sinon contre, les partis. Les radicaux disparaissent, on les sent pas, n'existent plus en termes de puissance. Et donc on va avoir une mouvance, beaucoup de clubs, et même à un moment un petit parti scissionné de la SFIO, il s'appelle le PSU. Mais tout ça commence par porter un nom étrange. J'ai porté ce nom pendant une dizaine, nous nous est donné le nom de gauche non communiste. Nous n'avons pas d'identité. Nous ne sommes définis que par rapport à d'autres. Ensuite, ça se durcit un peu, ça devient visible. Et notre rapport avec le communisme commence par être moins dominant et marquant. On va nous appeler la Nouvelle Gauche. La Nouvelle Gauche. Personne ne se rend compte que nous pratiquons expérimentalement les comportements politiques de ce qu'ailleurs on appelle la social-démocratie.
Quand vous dites la Nouvelle Gauche, vous parlez de la Deuxième Gauche.
Respecter l'étape histoire, vient un moment au milieu de tout ça où mes amis Patrick Rothman et Hervé Hamon publient une monographie de la CFDT qu'ils appellent la Deuxième Gauche. En décrivant très bien dans quelles conditions ce grand syndicat, ce syndicat en train de grandir, en train de devenir ce qu'il est maintenant le premier de France, dépasser la CGT, c'est énorme, c'est la crise de la gauche jacobine, en train de devenir donc la matrice, la façon de penser de cette gauche non communiste qu'on s'était mis à appeler Nouvelle Gauche, qui n'avait pas encore de vrai nom. Et c'est une dérive de conversation qui fait que le nom de Deuxième Gauche, inventé pour la CFDT, nous a été appliqué par une facilité journalistique, par tous vos commentateurs. On n'a toujours pas accepté, surtout pas les officiels, surtout pas François Mitterrand, surtout pas Guy Mollet, surtout pas Gaston Defferre, de nous reconnaître pour ce que nous sommes, l'embryon en France d'une social-démocratie vraie qui n'existe pas. Je me considère comme un socialiste suédois égaré en France depuis 50 ans. Voilà ce que je suis intellectuellement. Alors, la transition se fait autour de l'éthique. Il y a deux moments décisifs. Le premier, c'est le congrès, celui des têtes coupées, Valence. C'est le premier congrès après l'élection de François Mitterrand et le fait que le parti gouverne. Loin d'avoir fait tout ce qu'on voulait, on voit la crise, le chômage monter, ça résiste, ça se passe mal. C'est à ce congrès-là dont on a tout oublié parce que Paul Quilès a fait une intervention qui a mobilisé tous les souvenirs, on ne se souvient plus que de ça. Il a dit, ne nous faites pas croire que c'est parce que les fonctionnaires ne vous obéissent pas que vous avez du mal à travailler. Cessez de nous embêter avec les têtes. Si vous voulez des têtes, coupez-les vite, n'en parlons plus. Et on l'a pris au contraire. Toute la presse a dit, Monsieur Quilès demande des têtes. Contresens. Mais on ne se souvient plus que de ça. Pendant ce temps-là, c'est la première fois dans l'histoire que le Parti socialiste en congrès abandonne effectivement des mots comme révolution ou dictature du prolétariat et écrit que le changement de la société se fait principalement par le compromis social. Congrès de Valence, le compromis social. C'est 1982. Là amorce un changement. Vient ensuite l'aspect éthique. Lionel Jospin est Premier ministre. Il lâche cette phrase inouïe. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est une manière de dire. Je ne fais pas de promesse électorale mensongère. Sauf peut-être par accident ou incompréhension, c'est pas l'intention. Quand je vous parle de l'économie, je dis le vrai. C'est une rupture de comportement avec la gauche centralisatrice et étatique, pour qui tout était politique, pour qui il n'était pas question de faire marcher la société capitaliste, puisqu'il s'agissait seulement de la remplacer. La remplacer, on peut toujours rêver. Tant que si on ne la fait pas marcher, ça va de plus en plus mal. Pour autant, sa culture, sa formation, c'est justement cette gauche traditionnelle, classique, centralisatrice. Mais il casse avec une des sources de cette gauche centralisatrice, qui est le cynisme, au fond, qui est l'acceptation de dire n'importe quoi pour gagner le pouvoir, en ayant dans la tête que quand on a le pouvoir, au moins on a la possibilité de mobiliser toute l'expertise voulue. On sait bien qu'on ne sait pas tout, mais il y a des gens qui savent. Il suffit d'avoir le pouvoir pour l'avoir autour de nous et pour faire mieux. Rupture avec ça. Le processus social, faut être dedans. Ça commence moralement avec Jospin, mais c'est probablement nous, en tant qu'enfant de Mendès, parce que j'ai oublié de citer Mendès France au milieu de tout ça, qui lui était allé jusqu'à ne pas rejoindre le Parti Socialiste, tellement il connaissait la mécanique, tellement il la détestait. Mais il est, sur le plan d'intelligence, des prises de position des nôtres, complètement. Et c'est tout ça, la deuxième gauche. Alors, abandonnons toutes ces terminologies qui ne servent à rien. Il s'agit de la social-démocratie en train de réémerger en France et qui est maintenant devenue majoritaire. Majoritaire par l'écrit. Le dernier écrit, il est superbe, c'est le meilleur. C'est la cinquième déclaration de principe du Parti Socialiste. Elle date de 2007, la cinquième en un siècle. La cinquième, c'est la meilleure, c'est la plus franchement social-démocrate, elle l'écrit. Mais ça ne veut pas dire que les hommes actuels et les femmes du Parti Socialiste n'aient pas eu une histoire, une pratique, des conduites, une formation, un apprentissage de l'ancienne gauche, dans sa brutalité, dans son mépris de l'économie, dans sa méconnaissance. Il y a encore des traces de tout ça. La campagne électorale de 2012 est très marquée d'une assez grande indifférence à la vraie économie, puisque le programme était stupidement et de manière incompétente optimiste. Le PS a dit, François Hollande a repris, pendant notre gouvernement, vu notre sagesse, nous aurons 2,5% de croissance par an pendant 4 ans. C'est chiffré, ça a été présenté. C'est une absurdité. C'est un héritage de l'ancienne façon de penser la gauche. Jamais la vraie social-démocratie n'aurait fait ça.
Et en même temps, Michel Rocard, il se revendique, François Hollande, comme un authentique social-démocrate.
Alors, il a fait un grand pas sur la course. Lui non plus ne pratique pas le mensonge en politique. Il le pratique par inadvertance. Sur ce que je viens de raconter, cette erreur de programme électoral, d'annonce électorale, est le résultat d'un mépris de l'économie, qui est l'héritage de l'ancienne gauche. Mais c'est vrai que les paroles écrites, le texte fondateur qui est une déclaration de principe, la conscience de la réalité qui s'aggrave, la façon de négocier accord patronat-syndicat, encouragé par l'État mais pas négocié par lui dans le détail, et les social-démocrates dans sa problématique, dans sa méthode.
Mais en même temps,
mais c'est pas fini, il faut encore du temps. Et il y a beaucoup de mauvaises habitudes. Toujours le centralisme, il est encore un peu là.
Peut-on parler de mauvaises habitudes ou d'archaïsme? Quand vous, tout à l'heure, vous dénonciez le manque d'évolution des partis, peut-être aussi le corporatisme des syndicats, est-ce que finalement, aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est de ne pas pouvoir s'appuyer sur les outils qui permettent ce rassemblement, ces lieux où il faut précisément se mettre à faire germer la citoyenneté, faire germer un certain nombre d'idées nouvelles qui pèsent sur l'action politique?
On peut le dire comme ça. Mais à l'entrée de votre question, il y a la fusion entre le mot de mauvaise habitude et celui d'archaïsme. C'est pas tout à fait pareil. Cette nuance sémantique, à moi, elle m'est égale. C'est le passé qui le fait. Le drame du Parti Socialiste d'aujourd'hui, pour refaire une pratique social-démocrate, c'est que si en Suède, 70% des salariés sont syndiqués dans un syndicat unique. L'année dernière, ils ont fini une négociation qui avait duré 7 ans à fixer l'âge du droit à la retraite complète, l'âge du calcul de la retraite complète, à 67 ans. En France, il nous reste 8,5% de syndiqués divisés entre 6 centrales en compétition, sans complicité les unes aux autres. Impossible. Il n'y a pas que les mauvaises habitudes et l'archaïsme, il y a un constat de fait qui nous crée des différences dangereuses.
Peut-être, mais vous seriez partisan, par exemple, d'une obligation d'être syndicaliste, de cotiser quand on a un contrat de travail?
Non, l'obligation, ça vaut rien. Ça créerait des refus, des comportements de refus, ça renverrait à l'anarchisme. Une incitation, sûrement. Mais c'est vrai que la France a besoin, pour sortir de sa paralysie, d'une pratique sociale dense, où il y ait le plus de monde possible, ça c'est sûr. Moi je suis pour que la loi autorise le prélèvement des cotisations syndicales sur les feuilles de paye. Je suis pour la multiplication du syndicalisme de service. Les chèques restaurants, les chèques Noël, les chèques vacances. La prise en charge par le syndicalisme de plus en plus de services pour que la pratique syndicale ne soit pas seulement une affaire de façon de penser, et de faire seulement de la paye, mais une affaire de mode de vie et de pratique.
Considérez-vous François Hollande, chef de l'État, comme un héritier partiel de cette social-démocratie que vous avez vous-même essayé de promouvoir il y a 25 ans?
Écoutez, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour François Hollande. D'abord parce que c'est un homme loyal, c'est un homme droit et c'est un homme intègre. Et ça fait du bien en politique quand même. Il n'est pas très compétent en économie, c'est pas, mais c'est le droit de tout le monde. Là, ça joue sur l'entourage et sur la compréhension globale. Il est beaucoup plus héritier partiel de la gauche centralisatrice, étatique et celle du tout politique. Beaucoup plus. Mais, dans sa tête, dans sa volonté, il y a l'idée d'un rapprochement avec la social-démocratie qu'il recherche pour des raisons de véracité et pour des raisons d'une pratique sociale dont il sait qu'elle est bonne puisqu'il la commence lui-même. Et d'ailleurs, le choix de son entourage est clair là-dessus. Puisque beaucoup de militants qui étaient des vrais sociodémocrates sont autour de lui, y compris comme ministre. Manuel Valls, Marisol Touraine.
Tout ça, ce sont des anciens rocardiens.
Absolument.
Et quel regard portez-vous aujourd'hui, près d'un an d'exercice du pouvoir? Comment jugez-vous la capacité de François Hollande et de son gouvernement de modifier la donne quand on voit qu'en même temps, des hommes comme vous ou d'autres, ou je pense à des prix Nobel comme Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, sont des alarmistes. Vous êtes un alarmiste.
Oui. Je suis très disciple de Krugman et Stiglitz.
Mais absolument.
La clé de l'affaire, c'est qu'aucun gouvernement ne veut faire passer des choses que l'opinion ne comprend pas et n'approuve pas. Donc il ne s'agit pas seulement de ce que les dirigeants ont dans la tête et inventent, il s'agit de leur capacité de communiquer intelligemment. Quelle est la situation où nous sommes ? L'erreur de la campagne électorale, pour ne pas annoncer des catastrophes en gros, pour ne pas effrayer les électeurs, ce qui est une faute. Il faut annoncer, c'est une faute. Nous fait une campagne électorale avec une stupide annonce de reprise de l'expansion qui ne se produit pas, et laisse sur un certain nombre de domaines, je pense à la fiscalité notamment, une atmosphère de revanche contre l'insulte au petit peuple que représentait de la part de Sarkozy la loi TEPA. Favoriser les riches à ce point-là, de manière aussi visible, c'est une insulte pour les 80% de Français qui gagnent leur vie modérément. Et qui dit insulte, dit revanche. Et j'en ai un peu voulu au Parti Socialiste d'en être resté à cette revanche qui illustre la mesure des fameux 75%, au lieu d'en avoir pris le prétexte d'une refonte fiscale beaucoup plus générale qui reste nécessaire. Bon, nous avons du fait que les événements ne sont pas pliés à l'espoir et n'ont pas correspondu à ce qui était décrit, un début de gestion gouvernementale sans grande présence à l'économie, sans une mesure économique significative. Signe de crise de la pensée. La sortie, c'est l'acte courageux du pacte de compétitivité. Je vous signale quand même que 20 milliards d'euros d'un coup de soulagement des charges fiscales des entreprises pour les aider à survivre, c'est la plus grosse mesure conjoncturelle jamais prise par un gouvernement français depuis 20 ou 30 ans. On n'a pas l'habitude de travailler à ces ampleurs. Mon jugement sur François Hollande dépendra de la façon dont il conduit le processus et dont il arrive à une fin convaincante. Vous me posez votre question 6 mois trop tôt. Mais son désintéressement, son extrême intelligence et son souci de mieux répondre à la situation, parce que ça aussi ça se voit, me laisse un certain espoir. Simplement, la situation où nous vivons est d'une grande gravité.
Qu'est-ce qui manque le plus ? C'est le courage, l'imagination ou l'audace ?
Non, c'est l'intelligence profonde. Le courage et l'imagination supposent des bases de départ concrètes, qui sont la connaissance et la compréhension. Et c'est du côté de la compréhension pour le moment qu'on y court. Cette crise est compliquée. Et d'ailleurs, ce n'est pas une seule crise. C'est même pas une crise. Le mot de crise est un mot qui vient du vocabulaire médical. Crédit-crise dit anomalie temporaire et on sait ce que c'est que le normal qui est la santé. Nous sommes devant toute autre chose, des évolutions après lesquelles les choses ne seront plus du tout comme avant. Ce sera nouveau. Et puis, il y en a plusieurs à la fois qui s'interpénètrent et qui ne sont pas de la même cause. La première, sur 25 ans, c'est la double émergence d'un chômage qui devient non réductible et de la précarité. Double du chômage. La seconde, c'est la pagaille financière mondiale, avec déjà la crise faillite Lehman Brothers en 2008 et la menace de quatre fois plus gros quand vous regardez les déséquilibres actuels sur les marchés. La troisième concerne l'Europe, c'est la crise dite des dettes souveraines. La quatrième, c'est le réchauffement climatique, qui change tout, qui nous oblige à consommer si possible moins d'énergie, produite autrement, tout ça à la fois, en même temps. Et tout ça est un appel à l'intelligence, au travail intellectuel. Il faudra peut-être du courage pour l'appliquer, mais le recours au courage, il sera nécessaire quand on aura l'outil.
Est-ce que le produit de cette intelligence passe aussi par une gouvernance mondiale ?
Le produit de cette intelligence formule d'abord le constat que le problème est mondial. Or, la gouvernance mondiale, elle va très mal. Après la guerre de 39-45, on a été capable de créer l'ONU. L'ONU a été capable de trouver des solutions à quelques problèmes. La Namibie est une nation créée pour éviter une crise coloniale. Elle a même reconnu Israël. Au XXIe siècle, toutes les négociations internationales concernant l'armement nucléaire, concernant le climat, concernant les drames bancaires, toutes ont échoué. Toutes ont échoué. Et ça, c'est gravissime. Je ne sais pas comment on en sort. C'est le problème le plus urgent de la période, assurément. Mais redonner le pouvoir aux institutions internationales, c'est une croyance presque naïve dans une loi qui serait internationale. Il faut que les nos-nations soient capables de passer entre elles des compromis. Il faut que nos nations acceptent que pour traiter la plupart de toutes ces choses, il faut abandonner des parts de souveraineté nationale. Pour l'effet de serre, il faut accepter de déléguer à une autorité, peut-être pas l'ONU, à une autorité éventuelle, une autorité sur nos choix d'énergie qui nous sera opposable. Un peu de souveraineté en moins. En matière de pagaille bancaire, de droit pour les banques de faire n'importe quoi ou non, c'est évident qu'il faut soumettre le droit bancaire dans chaque nation à un droit collectif qui comporte des précautions, ce qui suppose une limitation de la souveraineté nationale. Je pense profondément que la mise en cause de l'absolutisme de la souveraineté nationale est l'urgence mondiale d'aujourd'hui.
Et vous pensez que François Hollande, la gauche ou le Parti socialiste en général sont prêts à sacrifier une partie de ses souverainetés nationales pour gagner sur le terrain international et faciliter l'émergence d'une nouvelle activité économique, citoyenne ou autre ?
Culturellement, probablement pas. Mais, premièrement, il n'y a pas de nationalisme, ni chez nous, ni surtout dans l'équipe gouvernementale. J'appelle nationalistes les gens qui iraient jusqu'à la guerre pour la préservation de ce concept. Rappelez-vous, le patriotisme, phrase de Jaurès, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine de l'autre. Et on en est là. C'est par haine de l'autre qu'on refuse de se soumettre, notamment sur le plan bancaire, qui est celui où ça menace le plus. La menace s'intensifie. Le fait que cette menace est mondiale va peser de plus en plus lourd. Et donc je fais, moi, l'hypothèse que l'international va peser de plus en plus sur les réflexions et les travaux, non seulement de François Hollande, mais de tout son gouvernement et de son cabinet.
Une dernière question, Michel Rocard. Au début de l'année, un sondage assez surprenant a été publié dans le journal Le Monde qui donnait comme résultat que 82% des Français pensent que les politiques ne sont plus crédibles. Et 70% dans ce même sondage pensent que la France, les Français, ont besoin d'un chef et d'autorité. Est-ce que ce sondage vous a surpris ?
Hélas, non. Il doit y avoir deux ou trois émissions de ça, nous disions la même chose quand on parle de gouvernance. Les sondés, ils disent l'évidence. Et ils répondent naïvement, avec la croyance que parce qu'il y aurait un seul chef et beaucoup de pouvoir chez le chef, il serait éclairé, il comprendrait les mécaniques multiples qui mondialement jouent sur nous. C'est pas vrai. L'art de gouverner ne peut être que collégial. Par définition, par structure, par condition pour capter la confiance et par condition intellectuelle de capter aussi l'information et de fabriquer les réflexions collectives, les outils d'analyse mentale pour en sortir. Ça colle pas. Mais voilà l'état délabrement où l'opinion est laissée par le niveau actuel de l'information sur la politique.
Mais ce besoin d'autorité peut être aussi lié au fait que les Français ont peur, sont dépourvus de réponses possibles à cette manière de gouverner, puisque les politiques sont nécessairement visées.
Mais évidemment. Mais souvenez-vous qu'après la crise de 1929, l'Allemagne était dans cette situation-là. Elle a élu Adolf Hitler. C'est ça qui est possible. Les dégâts de toutes les crises mal résolues ou maltraitées se payent toujours en politique. C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, mais nous n'avons pas aujourd'hui les moyens, justement, de, par notre histoire, par les intellectuels qui
tout
sont capables de témoigner.
C'est que les moyens cherchés sont de l'ordre de l'intelligence, de l'analyse, de la compréhension. La clé, c'est de comprendre ce qui se passe. Et de trouver ensuite le moyen de le traiter avec chacun des outils appropriés à l'endroit où on le peut. Quand l'intelligence qu'on en a et la manière de le décrire sont suffisamment capables de convaincre l'opinion que c'est comme ça qu'il faut faire.
Avec les bastions de résistance que vous évoquiez, à savoir qu'on n'a pas le temps de penser, que l'urgence, l'instant deviennent prioritaires au long terme, donc c'est un peu contradictoire tout
ça.
Si
on en reste là, c'est suicidaire. Mais ce dernier bouquin que j'ai écrit, qui s'appelle « La gauche n'a plus le droit à l'erreur », c'est un peu un cri d'alarme, et c'est un rappel à l'idée que notre survie exige que nous sachions tous ensemble, journalistes compris, du parler et du visuel, donner la priorité au temps long, à la compréhension des mécanismes, plus que sur l'événement.
Cette rencontre de Jean-Michel Djian avec Michel Rocard. À voix nue, réalisation Manouchak Fachaï, Céline Terce, prise de son Frédéric Kérou, attaché d'émission Claire Poinsignon, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.